rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Jean-Paul Sartre, ce qui peut surprendre certaines personnes. Il est mort le 15 avril 1980. C'était un philosophe athée qui a posé bien des problèmes qui pouvaient nous intéresser, nous croyants, chrétiens, catholiques, d'autant plus qu'il était d'origine catholique et protestante à la fois. Son influence a pu être désastreuse, mais en même temps, elle a pu être très profitable. Je peux vous raconter une petite anecdote. J'étais séminariste en 1950-51, et dans l'été de 51, venait de sortir « Les mains sales » de Sartre. Ce film, vraiment assez intéressant, moi qui m'a beaucoup intéressé, c'était un drame politique et idéologique avec Pierre Brasseur, avec Daniel Gélin aussi, puis Claude Nollier. Tout ça d'après une pièce de Jean-Paul Sartre. Et l'action se passe dans un pays imaginaire occupé par les Allemands. Et là, le comité central du Parti communiste confie à un jeune bourgeois idéaliste l'assassinat d'un de ses chefs qui est accusé de trahison. Alors, lui, il se fait engager chez sa victime, là, comme secrétaire. Il y amène même sa femme. Puis, il est saisi par la confiance que ce patron fanatique lui témoigne. Il se met à l'estimer beaucoup. Il l'admire. Mais le jeune homme faiblit finalement. Sa mission, c'est d'abattre ce traître et il hésite à l'abattre. Alors, il va falloir qu'un élément passionnel intervienne dans la pièce ou dans le film pour le contraindre à agir, à faire son devoir, si on peut dire, d'homme idéaliste. Mais le Parti communiste va réhabiliter sa victime 2 ans plus tard, tandis que lui, l'assassin qui a été jusqu'au bout de son courage en tant que communiste, devient un témoin gênant, non récupérable. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Il sera à son tour abattu. C'est pour ça que ça s'appelle « Les mains sales hein? ». C'est une œuvre dense. Et évidemment que ça inclut une condamnation du crime politique, mais ça incline vers une philosophie à base, comme dit la critique, de nihilisme et de désespérance. Mais pour ma part, j'étais allé voir ça quand j'étais séminariste durant mes vacances. C'était défendu d'aller voir un film. J'étais habillé en noir avec une cravate noire. J'avais le droit de porter ça durant les vacances parce que je travaillais pour payer mes études. Et donc, en 1951, je suis allé voir ce film. Et ce film m'a saisi sur le courage de la vocation. C'est surprenant, hein, comme bien j'étais saisi, moi, par une vocation que je croyais avoir, que je n'avais pas. Mais le film était tellement bien fait que je me suis senti saisi par le courage qu'il faut avoir devant l'instant présent. Et quand on est mandaté, demandé par Dieu à faire quelque chose, hein, je remplace le Parti communiste et ces choses que j'ai en horreur, par Dieu qui nous demande quelque chose, non pas de tuer quelqu'un, au contraire, mais de le servir, eh bien, il faut remplir sa mission. Il faut aller jusqu'au bout. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. C'est peut-être étrange que j'ai eu cette réaction. C'est que, vous savez que, même 20 ans après sa mort, on lit encore Jean-Paul Sartre. Il a personnifié pendant des décennies, quoi, le rôle de l'intellectuel engagé. Et il continue à passionner, un peu moins peut-être, mais il continue même à passionner bien des gens qui l'étudient. Puis même si ses prises de position, notamment en politique par rapport aux communistes, c'est épouvantable, semble complètement dépassé. C'est un petit homme, hein? C'est pas très grand. D'ailleurs, sa compagne Simone de Beauvoir l'appelait le petit homme, gentiment. Et ces pièces de théâtre continuent à être assez appréciées. Elles sont très saisissantes, même pour des chrétiens, comme huis clos, le diable et le bon Dieu. On peut réfléchir sur des pièces comme ça qui peuvent nous heurter, mais nous faire réfléchir sur la façon que nous avons de croire justement à Dieu et au diable. À l'étranger, en particulier dans les pays de l'Est, on les joue encore. Et la personnalité de Sartre, elle continue à susciter beaucoup d'intérêt. Il y a toutes sortes de publications qui se font, même encore, évidemment avec beaucoup de critiques, car on se met de plus en plus à analyser sa vie, qui n'est pas très, très exemplaire. Ni celle, d'ailleurs, de Simone de Beauvoir. Alors, vous vous imaginez que le 15 avril de l'an 2000, ça va être le 20e anniversaire de sa mort, vous allez entendre parler de Sartre, il y aura des débats, des émissions de télévision et quantité de choses. C'était l'homme de bien des combats, il s'est soucié des plus pauvres. Il le dit de façon absolument presque évangélique à certains moments, c'est surprenant. Et pour ça, ben, il est devenu, on pourrait dire, compagnon de route du Parti communiste, puis il a lancé cette phrase lapidaire qui est terrible, « Un anticommuniste est un chien ». Tellement il considérait que, finalement, le communisme était son évangile à lui. Mais même ses adversaires, moi, je suis plutôt un adversaire de Sartre, en tout cas, un bien petit adversaire, il faut bien reconnaître sa générosité, hein. Il a lutté inlassablement pour l'émancipation du tiers-monde. Il a rencontré les grands leaders de l'époque, de Chou En Lai, à Nasser, Castro. Il a participé à tous les débats, il a signé toutes les pétitions. Mais il a fait bien des erreurs. Sa fidélité, je dirais, aux plus démunis, l'a conduit à des positions qui l'ont isolé. Et elles sont aujourd'hui d'ailleurs remises en cause par toute la classe intellectuelle. Parce qu'on en sait davantage qu'il n'en savait à son époque. Notamment sa conviction que l'extrême-gauche devait être le ferment, disait-il, d'une grande révolution européenne. Et c'est une grande erreur. Il a posé des tas de gestes étranges. Il a même parlé aux ouvriers à la sortie de l'usine Renault, debout sur un tonneau. Puis il a été embarqué par un quart de police pour avoir vendu un journal gauchiste interdit. On se souvient de ça. Au-delà des engagements politiques, on pourrait dire que la véritable passion de Sartre, et ça, il faut bien le retenir, c'est l'écriture. C'est un écrivain. Pas un grand écrivain, son style, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais j'ai lu Les Mots, c'est une autobiographie publiée en 1964. Je l'ai lu deux fois tellement ça m'a intéressé, c'est passionnant. Et Je dirais avec bien d'autres que c'est son chef-d'œuvre. Dans Les Mots, il a résumé son existence, lire puis écrire. Il dit « Je me suis mis tout entier à l'œuvre pour me sauver. » Tout entier. Il a été l'un des derniers dinosaures, on pourrait dire, de la pensée. Et son champ d'intérêt, évidemment, dépassait largement la littérature. Non, il voulait pas écrire pour écrire. C'était d'ailleurs un philosophe de formation. C'est l'auteur d'un ouvrage ardu dans la lignée de Heidegger qui s'appelle « L'être et le néant » que j'ai essayé de lire et je n'y suis pas parvenu, bien que je sois licencié en philosophie. Ça me tentait pas vraiment, j'ai pas été capable. Pourtant, il y a des beaux passages. J'ai trouvé de beaux passages, mais j'ai pas lu au complet. Il a été aussi critique. Il a fait un ouvrage sur Jean Genet, sur Flaubert. Il était journaliste, fondateur de revues, Les Temps modernes. C'est un auteur de théâtre prolifique, hein, il écrit Les Mouches, que j'ai lu en partie, je l'ai ici, paru chez Gallimard, hein, en 1943, Huis clos que j'ai vu et beaucoup apprécié, Huis clos. Il y a des gens qui n'ont pas aimé ça, moi j'ai beaucoup aimé ça. Ça date de 1945, Le diable et le bon Dieu que Mauriac a détesté, moi j'ai beaucoup aimé ça, ça m'a fait réfléchir énormément sur ma foi. Mais c'est dur pour nous chrétiens. Il y a la putain respectueuse, que je n'ai pas vu, devenue sous sa baguette, la baguette de la censure, la paix respectueuse. Mais c'est un roman qui l'a imposé, c'est La Nausée, qui a été lu par beaucoup de gens. Ça fait énormément de tort parce que c'est très, 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 très dissolvant. Ça dissout tout. Il avait 33 ans, il a dédicacé ça à Simone de Beauvoir, qu'il appelle Castor, comme on sait. Et Sartre a longtemps suscité la contradiction. Il y a eu des relations difficiles avec Albert Camus, avec Maurice Merleau-Ponty. Tout ça, c'était tumultueux. Puis à la fin de sa vie, malade et aveugle, Sartre a vécu retiré dans un petit appartement de Montparnasse, où il est mort, donc le 15 avril 1980. Ce sera le 20e anniversaire, comme je vous ai dit. Et faute de pouvoir accéder à sa philosophie autrement que peut-être par le détour de son œuvre littéraire, la plupart des catholiques très ennemis de Sartre ont vu en lui l'un des esprits les plus noirs que ce monde ait pu connaître. Je crois que c'est assez juste aussi, mais c'est vrai que dans un sens, il est plus sombre, en tout cas qu'un Pascal ou un Nietzsche, dont les angoisses, les délires ne sont plus guère aujourd'hui que des feuilles mortes dans les manuels de nos livres. On peut définir les principaux aspects de la noirceur de Sartre, en tout cas qu'il y en a deux qui sautent aux yeux. C'est la contingence charnelle, il appelle ça comme ça. C'est le simple fait, disons, pour toute conscience, d'avoir à exister en tant que corps. Avoir un corps, cette contingence l'épuise, lui. Puis l'autre aspect très noir, c'est la présence d'autrui, qui deviennent, dans ses mots, l'enfer, c'est les autres. Pour la contingence charnelle, il va même dire que la vie est horrible. Elle prolifère et elle végète de façon absurde. Puis il parle de la viscosité. C'est terrible, 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 et c'est vraiment pas très, très ragoûtant de lire ça, parce que on le trouve dans La Nausée, ou même dans Huis clos. Huis clos, c'est terrible, c'est l'enfer chez les autres, c'est les autres. C'est des personnages, Garcin, Estelle, Inès, qui se torturent indéfiniment, et chacun devient le bourreau des deux autres. Ça constitue sans doute des illustrations saisissantes de cette nausée qu'il a de vivre parmi les autres. Et ces deux thèmes, ça, qui sont étroitement, qui vont étroitement ensemble, la pesanteur du corps et de la chair. D'avoir à exister en tant que corps, c'est terrible, puis, pour lui. Parce que Dieu n'existe pas pour lui. Dieu n'est pas un père. Et si Dieu n'est pas un père, ben, nous ne sommes pas frères et sœurs. Et nos corps ne sont pas des miracles, mais simplement le fruit du hasard. Alors l'enfer, c'est les autres. Et notre corps est une sorte d'enfer lui-même. Parce que si notre cerveau, si notre corps, si nos bras, nos mains ne sont pas mis au service de nos frères et de nos sœurs, parce que nous avons un Père commun, qui est Dieu, que nous fêtons cette année dans l'Église catholique, en 99, ben, l'enfer, c'est les autres, oui. Et dans un sens, il est logique avec lui-même. C'est terrible. Mais c'est très intéressant parce que ça nous fait comprendre, pour ainsi dire presque de l'intérieur, le drame, mais le questionnement intelligent souvent et logique d'un homme qui n'a pas la foi. J'ai lu les mots deux fois, j'ai vu au cinéma donc Les Mains sales, puis entre Huis clos, j'ai lu Diable et le bon Dieu, tout ça. J'ai même fréquenté les Chouris, rue Saint-Dominique, en 1951. Mais c'est Les Mains sales qui m'ont laissé sur l'importance de l'instant présent, comme disent les saints, pour rencontrer son devoir, c'est-à-dire rencontrer Dieu. Dans l'existentialisme est un humanisme, Jean-Paul Sartre écrit des choses qui me touchent beaucoup en tant que chrétien. C'est surprenant peut-être pour certaines personnes qui tranchent au couteau un peu trop toutes les choses. Je le cite, c'est pas très long. Un homme s'engage dans la vie, dessine sa figure, et en dehors de cette figure, il n'y a rien. Évidemment, cette pensée peut paraître dure à quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie, mais d'autre part, elle dispose les gens à comprendre que seule compte la réalité, et que les rêves les attentes, les espoirs permettent seulement de définir un homme comme rêve déçu, comme espoir avorté, comme attente inutile. C'est-à-dire que ça les définit en négatif et non en positif. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure avant la musique de Francis Poulenc. Et il ajoute, puis quelques lignes, « Cependant, quand on dit « Tu n'es rien d'autre que ta vie », cela n'implique pas que l'artiste sera jugé uniquement d'après ses œuvres d'art. Mille autres choses contribuent également à le définir. Ce que nous voulons dire, c'est qu'un homme n'est rien d'autre qu'une série d'entreprises, qu'il est la somme, l'organisation, l'ensemble des relations qui constituent ces entreprises, et dans ces conditions, ce qu'on nous reproche là, ce n'est pas au fond notre pessimisme, mais une dureté optimiste. Au fond, pour nous, chrétiens, nous savons, d'après l'épître de Saint-Jacques, que ce sont nos actes qui font que nous sommes vraiment chrétiens et disciples de Jésus-Christ. Et ce ne sont pas nos attentes, nos rêves, nos espoirs. C'est bon d'en avoir des espoirs. C'est bon d'avoir des attentes et des rêves, mais c'est pas ça qui fait la réalité. La réalité, ce sont nos actes. Ça rejoint Saint-Jacques. Mais pourtant, c'est dans l'existentialisme et l'humanisme de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre a été prisonnier en 1940. Oui, il était prisonnier pendant la guerre. Il était libéré pas longtemps après, mais il a eu le temps de faire quelque chose d'absolument phénoménal dont je vous ai déjà parlé. Dans un beau livre de Bernard Brault, « Peut-on éviter Jésus ?» Peut-on éviter Jésus-Christ, paru en 95 aux éditions de Fallois. On trouve en page 173 ce texte de Bernard Brault, le dominicain, très connu, B.R.O. Hein. « Je connais peu des vocations plus fortes du mystère de Jésus-Christ, de ce mystère de la confiance, que celle qui a été écrite à la demande d'un père dominicain, le père Boisselot, que celle qui a été écrite à la demande, donc, de ce père par un philosophe faisant profession d'incroyance, Jean-Paul Sartre, au plus noir de l'hiver 1940 dans un camp de prisonniers, pour aider ceux qui étaient là enfermés à garder confiance. » Aussi ce texte. Et Jean-Paul Sartre, je vous l'ai déjà lu, il y a bien longtemps, des années. Comme c'est aujourd'hui Noël, vous avez le droit d'exiger qu'on vous montre la crèche. La voici. Voici la Vierge et voici Joseph. Et voici l'enfant Jésus. Mais écoutez, vous n'avez qu'à fermer les yeux. Je vous dirai comment je les vois au-dedans de moi. La Vierge est pâle et elle regarde l'enfant. Ce qu'il faudrait peindre sur son visage est un émerveillement anxieux qui n'apparut qu'une fois sur une figure humaine. Car le Christ est son enfant, la chair de sa chair, et le fruit de ses entrailles. Elle l'a porté 9 mois, et elle lui donnera le sein, et son lait deviendra le sang de Dieu. Et par moments, la tentation est si forte qu'elle oublie qu'il est Dieu. Alors elle le serre dans ses bras, et elle dit, « Mon petit, mon petit. » Mais à d'autres moments, elle demeure tout interdite. Et elle pense, « Oh, Dieu est là. » Toutes les mères sont ainsi arrêtées par moments, là, devant ce fragment de leur chair qu'est leur enfant. Et elles se sentent en exil devant cette vie neuve qu'on a faite avec leur vie et qu'habitent des pensées étrangères. Mais aucun enfant n'a été plus rapidement arraché à sa mère. Car il est Dieu. Et il dépasse de tous côtés ce qu'elle peut imaginer. Et Sartre continue. Il y a d'autres moments rapides et glissants où elle sent à la fois que le Christ est son fils, son petit à elle, et qu'il est Dieu. Elle le regarde et elle pense, ce Dieu est mon enfant, cette chair est ma chair, il est fait de moi, il a mes yeux, et cette forme de sa bouche est la forme de la mienne. Il me ressemble. Il est Dieu. Et il me ressemble. Et aucune femme n'a eu de la sorte son Dieu pour elle seule. Un Dieu tout petit, qu'on peut prendre dans ses bras et couvrir de baisers. Un Dieu qui sourit et qui respire. Un Dieu qu'on peut toucher et qui vit. Et c'est dans ces moments-là que je peindrais Marie si j'étais peintre. Et j'essaierais de rendre l'air de hardiesse tendre et de timidité avec lequel elle avance le doigt pour toucher la douce petite peau de cet enfant Dieu dont elle sent sur les genoux le poids tiède et qui lui sourit. Et voilà pour Jésus et pour la Vierge Marie. Et Joseph? Eh bien, Joseph, je ne le peindrai pas. Je ne montrerai qu'une ombre au fond de la grange. Et deux yeux brillants. Car je ne sais que dire de Joseph, et Joseph ne sait que dire de lui-même. Il adore, et il est heureux d'adorer. Et toute la vie de Joseph, j'imagine, sera pour apprendre à accepter. Joseph ne sait que dire de lui-même, il adore. Il est heureux d'adorer. C'est notre programme de vie, au fond. Et lorsqu'en France, puis en Europe, après la guerre en 1945, on a vu émerger l'esclavage et l'horreur nazie, parce qu'on s'en est rendu compte vraiment après la guerre, quand on a vu les camps de concentration et tout ça, la pensée de Sartre éclate comme un hymne à la liberté, et Sartre s'exprime dans un immense traité que peu de gens ont vraiment lu, hein. C'est difficile, je vous l'ai dit, l'être et le néant. Et aussi dans un ensemble génial de pièces de théâtre, de romans. Il le fait avec une langue prosaïque, pas tellement lyrique, même anti-lyrique. Et c'est traversé de maximes impitoyables, nous dit Olivier Clément. Selon la grande tradition des moralistes français, et Sartre définit l'homme comme une liberté irréductible, capable d'éclairer, donc de modifier, là, tous ses conditionnements. Et c'est l'époque de Saint-Germain-des-Prés. Je me souviens, j'étais là en 1950, et du café de Flore, et c'était très amusant. On allait au tabou, et moi qui me préparais à rentrer dans un monastère, j'ai tout vu ça. Il fallait bien, avant d'entrer au monastère, pour être au courant. L'homme libre ne saurait prendre son petit déjeuner que dans un café pour... Sartre, on l'a vu souvent au café de Flore, prendre son café. C'est le temps de l'existentialisme, comme mode, c'est une mode. Et tous les intellectuels, de Paris puis même ici à Montréal, parlent d'authenticité à cette époque, puis d'engagement. On dit que l'homme n'est pas une chose, mais un projet. Il n'est pas un en soi, mais un pour soi, c'est pour lui-même. D'un côté, donc, on peut voir la pierre ou le chou-fleur ou la racine de marronnier, tout ça vu par un citadin, c'est donc opaque et inerte. Hein? Puis de l'autre côté, bien, la conscience, toujours en quête d'elle-même, qui ne coïncide jamais avec elle-même, et pourtant qui est créatrice de sens, et ainsi l'homme est liberté, d'après lui. Il se choisit à chaque instant, et c'est assez vrai pour les saints, ils se choisissent à chaque instant, et ils adhèrent à Jésus-Christ, mais lui, il n'y a pas de Dieu. Alors il y a un choix, comme il dit, choix et conscience sont une seule et même chose. Ça rejoint le christianisme, comme vous voyez. Notre liberté, c'est notre être même, elle se découvre dans l'angoisse, comme l'unique source de la valeur, et un chrétien qui n'est pas angoissé, à mon sens, devant la douleur de Dieu et l'amour de Dieu et la douleur des autres et tout ça, il n'aura jamais la valeur chrétienne profonde à laquelle il est appelé par Jésus-Christ. Rencontre spirituelle de Jean-Paul Sartre, et j'ai trouvé dans un ouvrage très intéressant, Les Écrivains devant Dieu, paru chez Desclés de Brouwer il y a plusieurs années. C'est un ouvrage sur Sartre, c'est intitulé Sartre, c'est de Francis Janson. Francis Janson, qui est un athée, et on a demandé donc à un athée d'écrire sur un athée dans une collection religieuse catholique. C'est assez étonnant. Et je trouve ça admirable dans un sens. Et Francis Janson écrit en page 43, j'ai trouvé ça superbe. Et je vous le lis parce que c'est très beau. Sartre avait besoin de Dieu, c'est sûr, pour justifier sa propre existence, pour en fonder la nécessité sur la place et sur le rôle qui lui serait à jamais imparti dans les desseins d'un tout-puissant créateur. Il cite Sartre, « Je pressentais la religion, je l'espérais, c'était le remède. » Et Francis Janson dit, « Prenons tout de même garde à ce qui suit. Me l'eût-on refusé, je l'eusse inventé moi-même. » Or, dit Francis Janson, le fait est qu'on ne la lui refusa point, et qu'on se contenta de la disqualifier à ses yeux en la lui proposant. Mais peut-être doit-on se demander jusqu'où serait allée son exigence, à quel niveau sérieux d'austérité, d'engagement la religion de son milieu aurait dû se situer pour lui apparaître valable. Et c'est le drame souvent de nos jeunes aujourd'hui. On ne leur présente pas suffisamment une religion de sérieux, je dis bien d'austérité, oui, d'engagement. Alors on lui propose autre chose. Francis Janson écrit, poursuit en disant, comment ne pas noter à cet égard que le besoin d'inventer la religion devient, quelques lignes plus loin, celui de chercher sa propre foi? Quand Sartre nous dit qu'il fut dégoûté de cette recherche par la doctrine officielle et son idole pharisienne, et on lui présentait un dieu juché sur un trône, juge rebelle et terrible, violent et punisseur. Alors, quand Sartre nous dit qu'il fut dégoûté, c'est le mot qu'il utilise, hein, de cette recherche par la doctrine officielle de son idole pharisienne, ce sont les mots de Sartre. Le mot « foi » désigne évidemment la seule croyance religieuse, mais, continue Francis Janson, il faudrait ne tenir aucun compte de la totalité de son œuvre et du simple contexte déjà que fournissent les mots, son autobiographie, là, dont je vous ai parlé, que j'ai beaucoup aimé. Pour se refuser à entrevoir sous cette formule ambiguë une attitude d'un autre ordre dont il ne semble pas qu'il se soit si aisément lassé, ce qui est si radicalement condamné, en tout cas, c'est le sentiment religieux dans ses manifestations sociales. Un peu comme les jeunes ne veulent pas venir dans nos eucharisties, dans nos assemblées religieuses. On a des chants parfois pénibles, j'en entendais l'autre jour à Radio Ville-Marie. De quoi faire fuir tout le monde, vous savez. Des chants où on nous chante le beau clocher de mon village et des choses tellement à l'eau de rose et fleurs bleues. D'accord, ce sont des chants anciens, très anciens, mais encore faudrait-il expliquer avant de les faire tourner, peut-être, parce qu'ils sont peut-être bien choisis au fond. Et alors, Sartre, dit Francis Janson, ne se contente pas d'écrire que des circonstances différentes auraient pu faire de lui un chrétien. Il écrit, écoutez ça, « Sans cette méprise, je serais moine. » Et sans doute, n'est-ce point par hasard, qu'il met ainsi l'accent sur une forme mystique et relativement solitaire du rapport à Dieu. Ce que d'ailleurs il exprime encore mieux deux pages plus loin en précisant que le mysticisme eut fort bien fait son affaire. Oui, le mysticisme eut fort bien fait son affaire, il le dit. « J'inclinais d'autant plus à m'élever au-dessus des biens de ce monde que je n'en possédais aucun et que j'aurais trouvé sans peine ma vocation dans mon confortable dénuement. » Écoutez bien l'autre phrase de Jean-Paul Sartre, c'est extraordinaire, « Je risquais d'être une proie pour la sainteté. » Oui, dans les mots, Sartre raconte comment, lorsqu'il avait 11 ans, il a rejeté définitivement Dieu, un Dieu conçu comme un espion céleste, là, dont le regard indiscret le paralysait. Ce Dieu, Sartre, devenu philosophe, le définit selon la tradition la plus pauvre de la théologie occidentale. C'est terrible. Il a une méconnaissance, on le voit bien dans le diable bon Dieu. L'image qu'il a du catholicisme nous fait trembler et nous aide à ne pas donner nous-mêmes cette image de notre foi, de notre Église, que nous aimons. Ce n'est pas le Dieu, toujours au-delà de la théologie négative, se laissant crucifier pour libérer l'homme de la finitude, puis le vivifier, c'est pas ce Dieu-là, non. Pour lui, c'est une plénitude dure que ce Dieu. Une espèce de boule dure, close. qui ne peut avoir d'en dehors. C'est une totalité, son Dieu, ou l'image qui se fait de Dieu, qui écrase l'homme. Ça lui fait dire, si Dieu existe, l'homme est néant. On l'a souvent répété, cette phrase de Sartre. C'est tout le contraire. Si Dieu existe, nous sommes merveilleusement aimés. Et nous avons un Père. Mais comme l'homme existe, la totalisation divine est impossible, d'après lui, l'idée de Dieu contradictoire. Hein? Ben, c'est à travers cette argumentation qu'on peut déceler sans doute un refus du fait que Dieu soit autre. C'est-à-dire, il éprouve de la difficulté à être reçu par un autre. Ben, son père est mort quand il avait 2 ans. Hein? En définitive, c'est le rejet du principe paternel, et comme beaucoup de nos contemporains, on entend ça continuellement. Sartre, il n'a pas eu de père, il est mort quand il avait 2 ans, donc il a été élevé par des femmes. Et beaucoup d'enfants aujourd'hui, de garçons, sont élevés comme ça par des femmes. Et son surnom, quand il était enfant, c'était Poulou, mais il va rester longtemps l'enfant surdoué que sa mère adulait. Et d'ailleurs, son rejet de Dieu coïncide avec le remariage de sa mère. C'est curieux, hein? Elle épouse un polytechnicien. Alors, lui doit s'assujettir à son beau-père polytechnicien. Il a dû ressentir le regard de cet homme comme très aliénant. Et Sartre va affirmer, il n'y a pas de bon père. C'est la règle. Le lien de paternité est pourri. Il va même refuser d'être père. Et lorsque sa compagne l'informe, pendant quelques jours d'incertitude, qu'il risque d'être père, Sartre est saisi d'horreur et de panique, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ça arrive, hein, et les femmes se trouvent seules avec cet enfant qu'elles portent, et elles doivent perdre leur conjoint, comme on dit aujourd'hui. Et puis, il y a le thème de l'inceste avec la mère qui traverse toute son œuvre. Et même dans son ultime message à la fin de sa vie, si prometteur, là, les entretiens publiés par le Nouvel Observateur, il va définir uniquement la fraternité par la mère. C'est le refus du Père, c'est le refus de Dieu le Père. L'homme que décrit l'être et le néant de Jean-Paul Sartre est un antéchrist triste au fond. C'est, il le dit lui-même, une passion inutile. C'est terrible des mots comme ça. Le refus de l'altérité de Dieu, le refus d'être reçu par Dieu, finalement, n'aboutit pas seulement à ce triomphe du néant, mais au refus de l'altérité même du prochain, comme on dit en langage chrétien, de l'autre, quoi. L'enfer, c'est les autres, dit-il. La communication, pour lui, est impossible, et l'amour, une duperie. L'amour n'est qu'une illusion, c'est une duperie, ça ne veut rien dire, l'amour, d'après lui. En somme, pour lui, il en arrive à penser que je ne puis dans ma relation avec l'autre qu'être sujet face à un objet ou objet face à un sujet. Bon, je voudrais entraîner l'autre dans ma tentative d'auto-déification, l'amener à me voir tel que je me vois ou que je m'imagine, mais si je le contrains, ce n'est plus un sujet libre qui me reconnaît, et s'il reste libre, son regard peut toujours me figer. Me chosifier. Alors, l'enfer, c'est les autres. Reste que les analyses de Sartre, quand il parle du salaud, comme il dit, ou de la mauvaise foi, moi, je trouve que ça peut être très intéressant. C'est dur. Je recommande pas ça à tout le monde, mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça renouvelle notre vocabulaire, le vocabulaire de la pensée puis de la démarche chrétienne. Quoi qu'il en soit, sa lucidité, sans autre perspective que le néant, là, c'est intenable, c'est sûr. Il y a eu de jeunes lecteurs de Sartre, d'ailleurs, je m'en souviens, qu'elle a conduit au suicide, alors que Sartre lui-même, il l'a avoué, ne connaissait, lui, ni l'angoisse, ni le désespoir, c'est curieux, hein? On peut, à partir de cette lucidité terrible, comme on la voit dans les mains sales, s'acheminer vers un approfondissement spirituel, je vous l'ai dit, ça m'est arrivé, en 1951. Mais Sartre, qui est solidement installé dans l'athéisme, lui, il n'a pas cette angoisse et ce désespoir, du moins prétend-il. On peut aussi, en méditant sur l'en soi, comme il dit, découvrir le mystère de l'être de Dieu. On peut faire ça, nous. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Heidegger, Camus. Mais Sartre reste l'homme de la grande ville, sans père, sans terre, comme dit si bien Olivier Clément dans Les Visionnaires. Alors quoi faire? Ben, la solution pour donner un contenu à la liberté vide, c'est une espèce de messianisme. Mais quel est le messianisme qu'il va choisir? C'est le marxisme qui déferle alors sur l'intelligentsia européenne. Incroyable, tous les gens qui se sont laissés prendre. Alors Sartre s'est laissé prendre. Il y a chez Sartre un anti-bourgeoisisme viscéral. C'est curieux, c'est manichéen. Ça lui fait rejeter son milieu familial. Il dit même, ça lui fait pisser sur la tombe de Chateaubriand, écrivain catholique. En 1952, il déclare « Je vouais à la bourgeoisie une haine qui ne finira qu'avec moi. » Alors il vient d'apprendre à un moment donné que le secrétaire du Parti communiste, Jacques Duclos, a été incarcéré 2 semaines à la suite de manifestations violentes, anti-américaines. Il y a alors 15 millions pourtant de détenus dans les prisons soviétiques. 15 millions de détenus dans les prisons soviétiques sans autre avenir que la mort. Mais Sartre ne veut pas le savoir, lui. Il pense à ce prisonnier Jacques Duclos. Hein? Puis les 15 millions, il n'en parle pas. Qui parle des 100 millions de morts dus aux athées dans ce siècle-ci depuis 1917, disons? On nous parle toujours de ceux que les chrétiens ont tués à une époque où les chrétiens étaient sous l'emprise d'idées abracadabrantes et souvent sous l'emprise de pouvoirs politiques qui les entraînaient à faire des choses insensées. D'autre part, Sartre lui-même, qui se déplace toujours les poches bourrées de billets de banque, était un homme généreux, faut l'avouer. Mais c'est un homme tourmenté, c'est un bourgeois repenti, comme on disait en Russie au 19e siècle, des aristocrates repentis. Alors il se sent coupable à l'égard des prolétaires puis des colonisés, puis il veut agir. C'est pas une fille de la charité ou un prêtre de la mission comme ceux fondés par Saint-Vincent de Paul, non. Mais quand même, il a un souci des pauvres et il pense que la liberté ne se divise pas et qu'on ne peut prendre sa propre liberté pour but si l'on ne prend aussi celle des autres. Il faut avoir comme but la liberté des autres. Alors il devient donc, de 52 à 56, compagnon de route du Parti communiste français, comme je vous ai dit, et il prend des distances après l'insurrection hongroise, mais il voyage encore en Russie en 65-66, et qu'est-ce qui lui arrive? Ben, Solzhenitsyne, avec raison, refuse de le recevoir, parce que Solzhenitsyne refuse. Et pour cause, hein, c'est que les déclarations les plus incroyables se sont succédées de la bouche de Sartre. Sartre célèbre à ce moment-là le marxisme comme la philosophie indépassable de notre époque. Imaginez la philosophie indépassable de notre époque, pauvre Sartre. Comme le climat de nos idées, le milieu où elles s'alimentent, le mouvement vrai de ce que Hegel appelait l'esprit objectif. Le marxisme désormais est à lui seul la culture, dit-il. Puis en 1954, en voyageant en Russie, Staline était mort, mais les camps existaient toujours. Hein. Sartre déclare « La liberté de critique est totale dans ce pays. Hein. » Comme on dit populairement. « Plus borné que ça, tu meurs. » Alors avant de dire des choses plus méchantes au sujet de Sartre, que j'estime par ailleurs, il faut bien avouer que Sartre a des relations avec le marxisme, mais elles sont complexes, tourmentées. Le marxisme, dit-il, il faut le compléter pour réformer le marxisme, quoi. Le compléter. Parce que vous savez que le marxisme, ça part un peu de l'Évangile, au fond, aider les pauvres. Mais sans Dieu, et ça devient terrible, on peut tuer des millions de gens pour aider les pauvres. C'est ce qu'ils font, eux autres. Étrange chose. Nous, c'est le contraire. Alors, il écrit donc sa critique de la raison dialectique et il rejette certains aspects du communisme, en particulier, écoutez bien, la bonté fondamentale de l'homme. Car une fois surmontée la lutte des classes, rien ne prouve que la violence va cesser. Puisque là va subsister l'ambition, on le voit bien en Russie, la volonté de puissance, la rivalité sexuelle, puisque l'homme va prendre conscience, sans échappatoire possible, désormais de son inéluctable finitude, alors il va dérailler. Mais quand même, Sartre, pour guérir ça, il prétend qu'il n'y a pas de fraternité sans violence, et là ça devient tragique. Pas la violence comme un mal nécessaire, c'est la violence partielle et limitée. Non, non, pas ça. Pas ça qu'il préconise. Ce qu'il préconise, c'est la terreur absolue et meurtrière. Parce que pour lui, la fraternité est la fille de la terreur. Imaginez, c'est absurde. C'est terrible. C'est presque diabolique, je dirais. Et il se rend pas compte que la violence qu'il prône est en réalité, comme on dit, l'acculturation occidentale de civilisations qui sont marquées par le sacré. Alors l'Occident doit perdre sa culture sacrée, tomber dans la violence pour guérir les maux. M-A-U-X. Alors au lendemain de mai 68, au lendemain de cette explosion dont vous devez vous souvenir, j'espère, Sartre est devenu le maître à penser d'un groupe de maoïstes, la gauche prolétarienne et ses jeunes bourgeois qui se voulaient révolutionnaires. Il les a poussés vers le terrorisme. Mais ce n'est pas lui, c'est Maurice Clavel, un converti, éminent catholique, que nous avons interviewé, Marcel Brisebois et moi, à Rencontre, un homme puissant, qui était au Nouvel Observateur, qui a évité alors à la France de connaître le phénomène des Brigades Rouges, vous savez, ou de la bande à Bader, hein, les Brigades Rouges en Italie, la bande à Bader en Allemagne. Tandis que le marxisme classique, en effet, dépersonnalise la lutte des classes en mettant en cause moins des individus que le système, Sartre, à cause de sa conception, lui, de la liberté, il impute à chaque bourgeois, à chaque colon, l'inhumanité de la condition prolétarienne ou coloniale. Il fait pas de distinction. Il est terrible. Mais il y a quelque chose chez lui, quand même. Il s'oppose au nihilisme par son athéisme même. Curieux. Parce que il ne s'agit pas vraiment d'athéisme, finalement. Non seulement Dieu n'a plus le moindre sens, mais il n'y a plus personne pour s'opposer à lui, et à la mort de Dieu succède la mort de l'homme, alors le signe importe plus que le sens, et la conscience n'est plus qu'un effet de surface. Alors, là, il essaie de relever l'homme au creux de lui-même. Sans Dieu, il affirme le caractère irréductible de la personne, du sujet, de la liberté. Et c'est assez beau chez un athée. Mais c'est pas suffisant, on le sait, nous, qui croyons. Mais nous pouvons prendre une leçon chez lui. Mais peut-on fonder le sujet, évidemment, soit sur le néant, soit sur la terreur? C'est durant ces dernières années, un changement profond, c'est beau chez Sartre, comme dans presque toute l'intelligentsia de gauche en France. Et c'est grâce à Solzhenitsyn puis à Maurice Clavel que plusieurs jeunes maoïstes découvrent la dimension spirituelle de l'homme. Alors Sartre participe aux campagnes pour les droits de l'homme. Et en 77, il se mêle aux dissidents soviétiques. Oui, commence à comprendre. Lors de la soirée organisée en leur honneur au théâtre Récamier par les nouveaux philosophes, là. Et la réflexion sur les droits de l'homme conduit toute une partie de la gauche à souhaiter l'élaboration d'une éthique, d'une morale capable de limiter puis d'inspirer la politique. Et Maurice Clavel là, lance le thème de l'homme comme auto-transcendant, véritable mise à l'endroit du pour-soi sartrien, là, dans la perspective non plus du néant et de la terreur, non, mais de la vie et d'un véritable désir de société. C'est se produit l'ultime revirement. C'est attesté par les entretiens avec Benny Lévy, dont l'influence semble avoir été très profonde sur Sartre. Désormais, pour Sartre, la conscience ne cherche plus à être Dieu. Elle accepte ses limites, et par là, elle accepte aussi l'altérité de l'autre. Alors, il accepte l'autre, non plus comme l'enfer, mais comme quelqu'un à aider. Et c'est comme conscience de l'autre et conscience pour l'autre qu'elle se constitue. Puis il écrit, et c'est cette réalité-là, ce soi-même, se considérant comme soi-même pour l'autre, ayant un rapport avec l'autre que j'appelle la conscience morale. Alors, la méditation de l'histoire juive aussi libère Sartre, il lit la Bible. Ça le libère de la conception égélo-marxiste de l'histoire. Et voilà un peuple qui, jusqu'à hier, sans patrie, les Juifs dispersés, a préservé quand même son unité. Alors comment, se demande Sartre, sinon par sa relation à Dieu, à son nom mystérieux, Yahvé, à sa parole, la Bible. Il peut donc y avoir dans la conscience humaine, par la religion, une liaison métaphysique avec l'infini, et l'attente de la résurrection dynamise la morale, l'éthique. Ça fait espérer une révolution morale. Alors, d'accord, Sartre rejette toujours le christianisme, mais il semble ignorer l'essentiel de ce christianisme, et son dernier mot, pourtant, fut d'espoir. Avec la mort de Sartre, en 1980, le 15 avril, le débat entre l'athéisme et le nihilisme, on peut dire, s'achève. Et si l'on veut sauver l'homme, il ne reste plus que le spirituel. Sartre lui-même l'avait pressenti avant de mourir, et on a même affirmé que 2 semaines avant sa mort, il aurait demandé un prêtre. Que s'est-il passé au juste? Simone de Beauvoir a jeté un voile sur cette rencontre. Une rumeur, je ne sais. Espérons que Sartre a rencontré Jésus-Christ avant de mourir à 74 ans.